franceinter.fr.
Et voilà, on a démarré sur les chapeaux de roue, Agora, qui va vous proposer une émission consacrée à la politique autrement. Nous sommes au studio 621 avec Valentin Hazan et Maxime Ingram qui pilotent le 621, avec Catherine Rosier qui va réaliser l'émission. Ce sont Agathe Maire et Céline Villegas qui m'ont aidé à la préparer. La politique autrement, eh bien nous allons en parler avec vous. Alexandre Jardin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, merci pour votre présence. Vous êtes écrivain, évidemment, fondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, cofondateur de la primaire des Français.fr. On en parlera dans un instant. À côté de vous, François Siegel. Bonjour, François Siegel. Vous êtes coéditeur et directeur de la publication le trimestriel Oui Demain. C'est le récit des mutations de nos sociétés ou de notre société mondialisée. En studio aussi, bien sûr, Aurore Vincenti.
Bonjour à tous.
Bonjour, Aurore. Édouard Zambou, qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h45 pour Périphérie.
Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous.
Et puis également Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Tout à l'heure avec Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, vous poserez des questions d'actualité politique à Alexandre Jardin. En préambule, peut-être Alexandre Jardin, d'abord deux, trois questions de curiosité. Bleu, blanc, zèbre. Bien. Mais zèbre. Le zèbre. Dites-nous un peu, parce que moi je me souviens du prix Femina 1988, mais d'où ça vous est venu, ça, cette zébritude?
J'aime ce mot. J'aime l'expression française, un drôle de zèbre, un lascar qui résonne autrement, bizarrement. Et c'est, je trouve que ce mot correspond aux gens que je rassemble depuis 3 ans, c'est-à-dire des gens qui pensent autrement, qui cherchent, au moment où le cadre ne fonctionne plus, qui résonnent en dehors du cadre, qui résonnent très très loin de la pensée technocratique, qui sont des faiseux, des gens qui fabriquent de la solution et qui obtiennent des résultats, mais en pensant autrement. C'est pour ça qu'on les appelle des zèbres. Ce sont de drôles de bêtes. Si vous raisonnez, par exemple, vous avez 2,5 millions d'interdits bancaires en France. Si vous raisonnez pas en zèbre, mais en techno, ben vous faites voter une loi sur la rebancarisation et vous vous dites que ce texte va produire du réel. Mais ça produit pas de réel parce qu'il en reste 2,5 millions. Alors qu'on a créé des obligations pour les postes, pour les banques. Mais tout ça, ça passe par du texte, pas par du « je fais ». Je fais quoi lundi, quoi. Et j'ai trouvé deux zèbres. Ils ont foutu des bornes chez les buralistes, là où le peuple va acheter ses timbres, acheter des chewing-gums et des paquets de cigarettes. Et ils ont ouvert 300 000 comptes. Ça s'appelle « compte nickel ». Ils n'ont pas raisonné.
Bien sûr.
Ils ont raisonné autrement, en dehors du cadre. Et des gens comme ça, il y en a partout en France.
Mais sur votre complexion naturelle, alors je vous ai posé la question du zèbre, et je vais maintenant, parce qu'il faut qu'on parle peut-être de l'héritage d'ailleurs, celle du zubial. Hein, qu'est-ce que c'est que le zubial par rapport au zèbre? C'est le père du zèbre, le zubial?
Oui. Oui, c'est mon père, le surnom de mon père. Qui était un homme très bizarre, qui est passé très peu de temps sur Terre. Il est mort à 46 ans quand j'avais 15 ans. Et j'ai vu, enfant, j'ai vu un homme qui osait vivre sans aucune forme de frein. C'est-à-dire, imaginez là, le reste de votre journée, vous supprimez vos peurs, et qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, c'était comme ça tous les jours. C'est-à-dire, j'ai vu un type qui vivait comme ça, qui perdait des fortunes au poker, qui courait chez des producteurs, signait des films pour De Funès, il écrivait les films en 3 semaines, qui ne payait pas ses impôts, qui était saisi constamment, qui avait toujours 12 femmes. On arrivait dans un dîner, et la maîtresse de maison le tentait, il prenait immédiatement le mari, qu'il allait essayer d'embarquer sa femme avant la fin du repas, et il le faisait. Et tout à coup, moi je me disais, waouh, donc la vie, ça peut être ça, quoi. C'est-à-dire, je voyais la vraie largeur de la vie, quand la peur disparaît. Ça m'a fait un peu peur, enfant.
L'héritage, ça peut peser lourd. Et d'ailleurs, pour vous aussi, François Siegel, moi je me souviens d'un certain Maurice, et grand, grand, grand journaliste, et vous continuez le boulot, vous aussi. Hein.
Bah, ça donne le virus. C'est pas vous qui me direz le contraire.
Non, sûrement pas. Alors, Aurore, en préambule à l'émission, le mot que vous avez choisi, quel est-il?
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Vous employez avec constance le mot « action », Alexandre Jardin. Il occupe une belle place dans votre paysage verbal. Vous vous exclamez « laissez-nous faire » ou encore « aux actes citoyens ». Citoyens qui pour vous sont des faiseurs ou des faiseux. Action, acte, faire, faiseur. La philosophie n'aime pas la simplification. Un mot pour chaque chose et chaque chose à sa place. Action et acte ne renvoient pas à la même réalité. Agir n'est pas faire et faire n'est pas fabriquer, ni créer d'ailleurs. Il y a pouvoir aussi. Mais enfin, je ne veux pas chipoter, pinailler, discriminer. Aujourd'hui, ces mots sont distincts, certes, mais ils s'affairent ensemble à une même réalité. Ils travaillent un même imaginaire. Et chacun, dans sa spécificité, ajoute une pierre à l'édifice. Alors je prends un tout petit bout de l'édifice, une racine aujourd'hui, le latin agere et le grec agein, qui ont donné agir. Ils viennent d'un domaine, d'un espace bien spécifique, puisqu'ils concernent très probablement à l'origine le berger et son troupeau. Alors imaginez que vous êtes un berger ou une bergère. Devant vous, un troupeau de moutons, pas ceux de Panurge, les vôtres. Je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination supplémentaire. Ces moutons ne sont pas de vrais moutons, ce sont les éléments de votre réalité sur lesquels vous pouvez agir. Des éléments plus ou moins proches, qu'il faut aller parfois chercher un peu plus loin. Mais vous, vous êtes à l'arrière du troupeau. Et cette vision d'ensemble vous permet de connaître vos moutons, enfin votre réalité. Agere en latin et agein en grec signifie pousser son troupeau vers l'avant. Spatialement, ce qui est très important, c'est bien de voir que l'on est à l'arrière du troupeau et non à l'avant. Quand on est à l'avant et qu'on a les moutons derrière soi, on emploie un autre verbe, « doukere », qui a donné « conduire » en français. Le « doux », c'est le chef, celui qui est à la tête du troupeau. Mais comme il marche devant pour guider, il ne voit pas son troupeau. Vous voyez que la perspective n'est pas la même. Être à la tête d'eux, être dans la position du chef, du prince, du premier, c'est en quelque sorte être privé d'un rapport au réel sur lequel on peut agir. Trop haut, trop loin devant. Parfois, c'est bien utile de voir au loin ce qu'il y a devant, mais un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça peut sauver des vies. Sinon, il suffit d'agérer. Parce qu'agir, c'est avoir la réalité devant soi et non derrière, tout en ayant la possibilité d'avoir une vision loin devant.
C'est intéressant, parce qu'il faut qu'on se pose aussitôt la question de savoir l'action dans quelle géométrie s'exerce-t-elle. On a beaucoup parlé de la verticalité, politique, culturelle, scientifique. On va parler beaucoup maintenant d'horizontalité, parce que là aussi, l'action peut prendre des formes nouvelles et intéressantes. Et d'ailleurs, c'est un peu là-dessus, François Siegel, que vous faites votre édito en entrée du trimestriel, oui, demain, du mois de juin. Vous dites que 2017, ce sera une année citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit, une année citoyenne? Et à partir de quelle réflexion, de quelle observation du monde qui change autour de nous, engagez-vous votre raisonnement?
Par l'observation de la création d'un certain nombre de mouvements issus de la société civile et qui, à l'occasion de ce qu'il y a de plus verrouillé en France, c'est-à-dire l'élection présidentielle, veulent s'exprimer. Alors, il y a bien sûr le mouvement de Pascal Jardin et de ses œuvres, mais il y en a plein.
Ah, vous
d'autres.
Avez dit Pascal.
Alexandre, pardon.
Là, c'était Zubial.
Pardon. Il y en a plein d'autres. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce que ces mouvements vont arriver à exister? Bon, c'est vrai qu'ils sont essaimés, ils sont individualisés, mais je pense que c'est déjà une première dans le paysage politique français. Après, voilà. Comment, dans cette société, en fait, qui est caractérisée aujourd'hui, cette nouvelle société, elle est caractérisée par ce mot qui s'appelle la reprise en main citoyenne, quoi, sur l'ensemble, à peu près sur tout, quoi, sur tout. Donc, c'est une société, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est aujourd'hui transversale, qui est à l'opposé du modèle français. Le modèle français, c'est un modèle parisien, pyramidal, avec un chef de l'État. Quand on entend que le président de la République dit qu'il veut se passer de Premier ministre, on se dit que globalement, on va peut-être pas aller beaucoup dans le sens, effectivement, du nom pyramidal, où en fait, tout est décidé depuis Paris avec l'appui de tous les grands corps de l'État. Et les grands corps de l'État, c'est le nucléaire. Alors, c'est vrai que j'en mets aussi une couche dans l'édito sur le montant faramineux des dettes du nucléaire et qui montre qu'on va avoir énormément de mal à s'en sortir dans ce pays. Mais comment, effectivement, on va passer d'une société de l'initiative individuelle? Parce que c'est ce qui va se passer. Ce qu'on appelle l'Uber ubérisation de l'économie, hein, je dirais, qui est un des mots apparu récemment. Bon, c'est en fait la reprise en main globalement, alors avec, je dirais, des mauvais côtés, évidemment, puisqu'on est dans une période où on cherche. Et dans la période où on cherche, c'est le Far West, il y a du capitalisme nouveau qui est en train de naître, hors des règles, etc. Mais globalement, on voit bien que toute cette société transversale, elle part effectivement d'une reprise en main citoyenne dans tous les domaines. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine effectivement du bien manger, dans le domaine du livre. Donc il va falloir aussi que la politique s'adapte à ça. Et la grande question, pour en revenir effectivement à votre remarque du départ, la grande question c'est quand est-ce que cet empowerment citoyen va s'emparer de la politique. Est-ce que ça sera pour 2017? Je dirais globalement on le souhaite, hein, parce que là on est en train de mal partir.
Pardon de vous interrompre, faisons un rêve. Est-ce qu'on peut imaginer, je crois même que Alexandre Jardin l'a envisagé, est-ce qu'on peut imaginer en 2017 un candidat citoyen à la présidentielle et pourquoi pas, à la surprise générale, un candidat élu, un citoyen élu?
Je vais pas avoir la prétention de vous répondre à la question parce que globalement, j'en sais rien.
Je vais répondre, bien entendu. On peut se poser cette question désormais.
Je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est un projet. Il faut un projet de société qui fasse rêver. Il faut un projet qui tourne autour, effectivement, de l'énergie, de la réintégration, effectivement, du citoyen dans un certain nombre de prérogatives, donner la parole aux gens. Je pense que oui, si effectivement ce projet pouvait émerger. Donc ce projet, il faut que ça existe. Je prends un exemple, même s'il est, il est pas excellent. Quand David Cameron a été élu, je me souviens très bien, c'était vers les années 2008, hein, excusez-moi si je donne une bêtise, mais globalement, le projet, ça s'appelait The Big Society. Et The Big Society, alors ça a été abandonné depuis, hein, mais The Big Society, c'était transmettre aux collectivités locales et aux citoyens un certain nombre des prérogatives qui étaient celles avant de l'administration, puisque l'administration générale de l'État était devenue impuissante. Ça, c'est un projet de société. Ça, c'est un projet. Et en gros, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les clés, elles sont au niveau du citoyen, au niveau du maire, au niveau du local, elles sont plus au niveau de la pyramide d'État.
Alors, rentrons dans ce paysage que vous décrivez, qui n'est pas aussi binaire qu'on pourrait le croire, Alexandre Jardin. Quand vous distinguez d'un côté les faiseux, ceux qui agissent, ceux qui font, et de l'autre côté les diseux, ceux qui parlent et qui sont souvent des responsables politiques, et pas que, il y a malheureusement aussi beaucoup de diseux dans les médias. C'est un partage du monde, ça? Faiseux, diseux?
Ce que j'appelle des faiseux, ça inclut quoi? Ça inclut le monde associatif, le monde entrepreneurial, le monde économique, les élus locaux. Fondamentalement, les élus locaux.
À commencer par les maires.
À commencer par les maires, les présidents de région, les gens qui s'occupent des départements. C'est-à-dire les gens qui restent à hauteur d'homme, qui restent à un niveau où on peut encore se voir à l'œil, où on est à portée de baffe. L'élu local, quoi qu'il arrive, il a la personne en face. Ça change absolument tout. Mais pour moi, les mouvements citoyens ne pourront rien, s'ils ne font pas un accord avec leurs élus locaux. C'est-à-dire s'ils ne reconnaissent pas que leurs élus locaux sont leurs alliés naturels. Ce qui est très étonnant dans ce que vous avez dit, c'est que vous dites, on manque de projets et dans la minute qui a suivi, vous avez énoncé le projet. C'est-à-dire qu'en réalité, le projet, c'est bien la France des territoires. C'est bien le transfert d'ample pouvoir à une société civile d'adultes qui ont déjà modélisé un très très grand nombre de solutions qui déjà crachent du résultat. Pour remettre les chômeurs longue durée au travail, pour remettre, pour rebancariser, pour lutter contre l'échec scolaire. C'est-à-dire, ce que j'ai découvert en l'espace de 3 ans, j'ai dû faire 300 déplacements. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas de fracture française qui ne soit pas déjà guérie, quelque part. Le pays d'une créativité inouïe. Il y a des élus locaux, et hier j'étais dans les Vosges, avec des maires ruraux, je regardais comment techniquement certains avaient fait pour doubler leur population. Comment ils avaient refoutu au travail une grosse partie de leur commune. Donc, le pays d'une créativité, nous pouvons avoir confiance en nous. C'est très important. C'est-à-dire que lorsque vous entendez des choses qui vous désespèrent à la radio, dites-vous bien qu'il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Mais à condition d'accepter d'aller chercher la créativité partout. c'est-à-dire dans le monde associatif, chez les élus locaux, dans les entreprises et dans la fonction publique. Vous avez, c'est-à-dire que si on veut transférer d'amples pouvoirs à des gens crédibles aujourd'hui, je dis bien crédibles, réellement crédibles, c'est-à-dire pas diseux, c'est-à-dire pas des gens qui sont sur le marché de la promesse, mais des gens qui sont sur le marché de l'action, on a ce qu'il faut en magasin. Le peuple français est un très grand peuple.
Mais alors attendez, justement, le peuple français, puisque j'en parlais de l'article 2 de la Constitution avant de commencer Agora tout à l'heure, que dit-il ? L'article 2 de la Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dès lors, c'est dans notre Constitution. Comment expliquer par quel chemin singulier nous sommes-nous à ce point éloignés de cet article clé de notre Constitution ? Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
C'est ce que Sigel disait. On s'est fait avoir par la verticalité. À un moment donné, c'est bien, on a renoncé à se faire confiance entre citoyens. On a renoncé à l'acte de confiance dans les territoires. On a accepté un système absolument vertical qui est fou, qui est complètement fou. Lorsque vous avez un élu local qui veut, par exemple, créer une maison de santé, techniquement, vous avez tellement de normes qui dégringolent d'en haut, mais tellement, qu'il ne pourra pas agir, même s'il le veut, même s'il a l'argent, avant 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire que la verticalité a encalaminé, mais toutes les activités humaines. Vous avez aujourd'hui un système normatif qui fout par terre le monde de l'éducation populaire. Le monde de vous avez des centres sociaux qui ferment aujourd'hui parce que les gens n'ont pas l'argent pour les mettre aux normes. Vous avez aujourd'hui des communes qui doivent mettre aux normes handicapées des centres de pompiers. Tout le monde sait que tout le monde est tétraplégique parmi les pompiers. Ça, c'est complètement con. Je veux dire, ces gens n'ont plus un radis, mais c'est ça la verticalité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dégringole d'en haut et on oublie le bon sens le plus élémentaire. La verticalité est la grande maladie française. Donc, à un moment donné, le grand projet qui va fatalement émerger, la question, c'est le chemin, mais fatalement, on va refaire partir le pays par les territoires et par cette puissance extraordinaire que détiennent les gens qui ont les solutions.
Alors, quand vous observez, dans Oui Demain, François Siegel, avec tous ceux qui vous accompagnent, les grands phénomènes de mutation de nos sociétés, vous insistez beaucoup, d'ailleurs, sur tous ceux qui ont vu avant les autres, qui ont annoncé, on a parlé de la loi de Moore, il y a tout un article consacré à Moore sur les évolutions technologiques et la façon dont ils ont, d'ailleurs, transformé complètement le monde. Cette horizontalité dans laquelle nous sommes... Alexandre Jardin a raison. Nous sommes déjà rentrés. Le monde a déjà changé. Beaucoup ne le savent pas encore, mais le monde a déjà changé. Ça, on a la certitude désormais que le monde va être un monde horizontal que cette horizontalité peut en effet non seulement interroger, mais remettre en cause la verticalité.
Il y a des réticences, évidemment. Il y a des réticences. Et il y a des réticences qui sont que le monde est en train de partir, je dirais. Il y a des réticences géopolitiques. Il y a des réticences, effectivement, l'émanation globalement des pouvoirs forts, évidemment, et globalement des semi-dictatures à peu près partout. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles partout dans le monde, malheureusement. Ce qui est certain, nous sommes des observateurs, je dirais, pas forcément des théoriciens. En tout cas, il ne faut pas qu'on se trompe de rôle. Mais ça fait 4 ans que Oui Demain existe et je suis étonné de la vitesse quand même avec laquelle le monde évolue, j'irais, dans ces domaines et qui sont des domaines qu'on observe. Il y a 4 ans, souvenez-vous, les énergies renouvelables, ça devenait effectivement, c'était des prophéties de bobos. Moi, je me souviens très bien d'un grand fonctionnaire français me disant, cher monsieur, si vous croyez que c'est avec vos moulins à vent, mes moulins à vent, comme c'était les miens, qu'on va faire tourner vos usines. Bah, je vais prendre un exemple, je dirais, aujourd'hui, le Chili qui est passé totalement aux énergies renouvelables aujourd'hui a une énergie qui est à peu près au coût marginal zéro, c'est-à-dire tellement il produit grâce au solaire d'énergie, ce que disait Rifkin effectivement dans la troisième révolution industrielle. Voilà, donc tout ça évolue à une vitesse qui est absolument hallucinante, quoi. Je veux dire, toutes les capitales du Nord sont en train de se mettre au zéro carbone, voilà, tout ça accélère. Donc ça, c'est très optimiste parce que je pense qu'on ne pourra pas faire autrement et que globalement dans la nouvelle révolution révolution de la société, il y a la révolution citoyenne qui est celle de l'énergie et qui est celle de l'environnement. Et c'est une révolution de proximité.
Et c'est une révolution aussi électronique et technologique. Ça, l'horizontalité des réseaux, le transport de l'information par Internet est un des éléments qui peut non seulement expliquer, mais encore accélérer l'horizontalité.
Ah, mais ça, je dirais globalement, on n'y échappera pas, quoi. La société 2, 3, 4, 0, ça, on n'y échappera pas. Elle est d'une vitesse absolument, absolument époustouflante. Et elle est en train d'attaquer aujourd'hui tous les secteurs. Regardez, je pense que l'automobile, c'est passionnant parce que l'automobile, c'est le 20e siècle. Globalement, c'est la voiture pour tous, c'est la réussite, c'est l'émancipation, on sortait des villes, on bétonnait, on construisait des autoroutes, des routes, effectivement, c'est le 20e siècle, c'est un gros pourvoyeur d'emplois, et c'est aujourd'hui le modèle qui est le plus remis en question par le 21e siècle, le plus remis en question. C'est-à-dire que le modèle indispensable du 20e siècle, celui de l'automobile, on s'aperçoit globalement qu'on peut s'en passer. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? La voiture autonome, c'est plus un rêve, c'est demain. La voiture autonome, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle va apporter quoi? Elle va apporter qu'on va peut-être supprimer 90% des accidents de voiture. C'est pas rien. C'est les petites Google Car, Apple Car. Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est demain matin, est-ce que Renault, Mercedes, etc. seront encore, je veux dire, les patrons de l'automobile? Est-ce que ça sera Apple? Est-ce que ça sera Google? Est-ce que ça sera Tesla? Vous voyez, toutes ces nouvelles marques qui existent. Mais tous ces gens-là n'ont qu'une envie, c'est la voiture autonome. Autonome, c'est quoi? C'est les robots qui commencent à s'installer dans notre vie. Bon, ça, évidemment, il faut en tenir compte parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la révolution technologique numérique 3.0, celle-là, on l'arrêtera pas. Avec des incidences absolument colossales sur l'emploi, avec des questions qu'on se pose, que moi, je n'arrive pas à me poser. Quand on écoute les programmes des candidats, on va dire, qui veulent faire la révolution qui aurait dû déjà être faite en France. Les candidats, on va dire, Fillon, Juppé, les candidats de la droite, on va dire, classique. C'est-à-dire, en gros, ce pays n'a pas réformé, il est grand temps de réformer. Ils ont sûrement raison. Mais je peux pas m'empêcher de dire qu'ils ont raison trop tard. Parce que je voudrais qu'on m'explique, moi, demain matin, comment on va travailler 67 ans, voire plus, augmenter encore le temps de travail, quand on voit que j'irai dans un monde où, effectivement, toutes les tâches répétitives vont être remplacées, effectivement, par des machines. Donc, il y a un moment, il va falloir comprendre ce système qui existe et trouver des biais. Et c'est là qu'on pose des problèmes de société. Et les gens le savent bien. C'est pour ça qu'ils sont inquiets par rapport à ce modèle qui ne comprennent plus, parce que globalement la croissance telle qu'on l'a connue, elle n'est pas là, elle n'est pas revenue, elle va pas revenir de sitôt, même si les performances entre guillemets de la France aujourd'hui sont pas si mauvaises que ça, mais elles sont totalement inaudibles, on s'en fout, quoi. Je dirais, ça n'intéresse plus, il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à se focaliser là-dessus, donc il va falloir inventer une autre forme de société.
Mais alors elle existe déjà. Tenez, prenons Alexandre Jardin, change.org. 1,3 million de signatures contre la loi travail en quelques jours. Leader mondial de l'e-pétition. 7 millions d'inscrits en France. 1000 nouvelles campagnes chaque mois. Donc ça produit déjà du changement dans cette horizontalité que vous évoquiez à l'instant.
Oui, mais ça ne produit pas.
Ça ne produit pas.
Au sens de production. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes qui amplifient, mais ça ne produit pas. Pour moi, Feuzeux, c'est différent. J'étais mercredi en Lorraine, au congrès de CFDT en Lorraine. Bon. Et je m'intéressais, avec Laurent Berger, j'essayais de comprendre tout ce qui, à l'intérieur, par exemple, d'un syndicat, qui a une vocation à mener une vie syndicale, eh bien, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur d'une structure comme ça, de la CFDT, vous avez plein de gens qui produisent de la solution. Par exemple, ils créent des forums pour l'emploi où les membres de ce syndicat font venir les DRH de leurs entreprises, ils font des forums pour les jeunes. Ça, c'est une production. Ils ont beaucoup travaillé sur la question du cautionnement mutuel pour les appartements. Ça, c'est de la production de services. Ils ont beaucoup travaillé, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Pour moi, il y a une différence énorme entre... une amplification d'informations, de mobilisation, et puis une production. Le type qui a ouvert 300 000 comptes, vraiment, les gens ressortent avec un RIB et ils peuvent aller chercher du boulot. Et donc, j'ai souvent l'impression que l'on confond ce qui est de l'ordre du « je dis », même si je dis à grande échelle, à « je fais ». Et je dis ça parce que c'est comme s'il y avait une confusion.
Mais elle existe, en effet.
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Ouais. Ce sont pas les mêmes. C'est pas la même chose de cliquer et de faire. C'est pas la même chose d'accompagner un chômeur longue durée dans le programme Solidarité Nouvelle face au chômage. Ils suivent près de 6000 personnes par an. Les deux tiers retrouvent du boulot au bout de 10 mois avec des outils très performants. Là, c'est du très bon diseux. Mais alors, c'est pas pour dire du mal de.
Non, mais j'entends
des pétitions. C'est juste, il faut pas qu'il y ait de confusion entre les faiseux qui produisent de la solution pour le pays et son journal Oui Demain parle énormément de ceux qui produisent. Les producteurs.
Mais alors comment faire? Oui, François,
oui, d'autant si plus que dans la pétition, il y a quand même un truc, la pétition simultanée, moi je veux dire systématique, ça me fait toujours un petit peu peur parce qu'on voit bien les questions un peu les questions un peu nauséabondes qui pourraient être posées quoi, dire dans les pétitions quoi. Est-ce que vous êtes pour le retour de la peine de mort dans le cas de machin etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'utilisation de la pétition systématique, c'est bon, ça peut permettre effectivement de pousser, c'est toujours pareil quand elle va dans le sens
un accélérateur.
Donc
comment passer, c'est là qu'est l'enjeu, c'est peut-être là-dessus que vous travaillez les uns et les autres. Comment passer de l'illusion cliquer, c'est faire sans faire en réalité, au vrai faire. Comment faire évoluer une société pour qu'elle prenne conscience du fait que décidément cet article 2 de la Constitution, il nous appartient et que le citoyen peut avoir un rôle concret en agissant.
Vendredi, moi j'étais à Marseille. J'ai signé un accord avec la région PACA. C'est-à-dire que, au niveau régional, on va mettre en place 3 politiques. Mais c'est des politiques très concrètes. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut commencer. Il faut pas attendre un grand soir. Il faut y aller, territoire par territoire, en signant des accords opérationnels. Par exemple, en PACA, on va déployer un programme de ZEB qui est très important, qui s'appelle les Cafés Contact. C'est né en Alsace. Un type qui s'appelle Paul Landowski, qui a créé les Cafés Contact Emploi. Il travaille un territoire, ou une commune, ou un quartier. Il va voir toutes les entreprises pour repérer leurs besoins immédiats. Rendez-vous dans un café populaire. Les entreprises se mettent debout, les unes derrière les autres, sur une chaise, disent leurs besoins, plient la feuille, vont se mettre derrière une table. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un du Café Contact qui dit « Dans un Café Contact, tout le monde a l'entretien d'embauche dans les 5 minutes. » Ça résonne très fort pour les centaines de milliers de gens qui nous écoutent et qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas de réponse quand ils envoient des CV. On pète la logique du CV. Parce que quand le chômeur se retrouve en face de l'employeur, très souvent les gens changent de demande. Et puis, tout à coup, on se parle. C'est-à-dire que l'a priori, tous les a priori tombent parce que vous avez la personne en face de vous. Et ça remet au travail, dans chaque café contact, à peu près 10% des gens qui y assistent en 1h30. Donc, vous voyez que ça naît en Alsace. Maintenant, la question, c'est comment on va le déployer? Pour le déployer, il faut signer des accords. Donc, les accords là que je viens de signer avec la région, le président de la région PACA, c'est très opérationnel. Et il faut maintenant passer à l'opérationnel avec les élus locaux. Mais ça sert à rien que la société invente des solutions si elle reste trop petite.
Mais les élus locaux, ils marchent avec vous vraiment ou pas? Ne sont-ils pas, d'une certaine façon, eux aussi, dans cette verticalité que vous évoquiez en commençant notre conversation tout à l'heure?
Alors, je vais être très franc, ils marchent. Et ça ne dépend pas de la couleur politique. C'est-à-dire qu'ils marchent d'autant plus quand ils sont dans des zones où le Front National est fort. C'est pas un hasard si j'ai signé avec PACA. C'est pas un hasard si on est en négociation avec le Nord. C'est pas un hasard si on va lancer tout un programme de création d'activités, un programme qui s'appelle Entreprenez votre vie, on va le lancer le 22 à Arras. C'est pas du tout un hasard, c'est-à-dire que plus vous êtes dans une zone où vous avez une classe politique locale qui est dos au mur, qui voit bien que la population va retourner la table, à ce moment-là, vous n'avez pas les mêmes... Actuellement, aujourd'hui, le président de PACA, le président du Nord, ne sont plus les mêmes qu'il y a 5 ans. Parce que l'histoire est passée par là. Parce que le Front National a failli passer. Donc ces gens se posent des questions qu'ils ne se poseraient pas. Ensuite, pendant qu'on parle là, il faut quand même savoir ce qui s'est passé à Marseille dans la rue. Il faut quand même savoir que Nantes est quasiment en guerre civile, avec des hélicos qui passent au-dessus. Avec des vitrines qui sont pétées. On a des portions du territoire qui sont déjà dans la violence. Donc vous avez des élus locaux qui se posent des questions dans un tout autre climat. Donc le concours de beauté, ah tiens, est-ce que je dois aller lui serrer la main ou deux trucs, ne se pose plus. C'est-à-dire, on est dans une situation qui est quand même extraordinairement grave. Et quand tout à coup, le chef de l'État dit, ah ben ça va mieux. Mais enfin, il parle de chiffres nationaux. Il parle de moyenne nationale. Mais les Français ne vivent pas dans une moyenne. Donc ce modèle mathématique que nos élites parisiennes ont dans la tête, c'est un modèle mathématique. Ça ne recouvre pas la réalité.
C'est une abstraction politique.
C'est une moyenne. C'est une moyenne. Or, l'Île-de-France fait un point de plus de croissance que le reste du territoire. Donc les gens qui nous écoutent, ils habitent quelque part. Et ils habitent en général dans un territoire qui est en récession depuis des années.
Mais alors vous dites faire. Alors, oui. Restons sur le cas qui est intéressant du café contact.
Et monter, faire avec les communes, faire avec les régions.
Mais vous, déjà les résultats, vous avez des... La recherche d'emploi, café contact, ça produit quoi?
À chaque café contact, on a 10% des gens qui retrouvent du boulot. Vous avez 10%, quand vous avez 300 personnes qui y assistent, en moyenne, ça peut être 15, ça peut être 8, selon les territoires, on a une moyenne d'à peu près 10%. Donc on sait que c'est performant. Voilà. Mais l'intérêt de procéder avec des faiseux, c'est que au moins vous pouvez regarder si ça marche en vrai ou pas. Je vais vous prendre un autre exemple. Le major Boucherie, qui est un major de la gendarmerie, dans le département du Gard. Voilà un homme qui un jour se dit, au fond, je ne vois les jeunes que lorsqu'il y a un dépôt de plainte. C'est-à-dire trop tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, il y a maintenant 3 ans, il va voir des principaux des collèges qui un peu turbulents, et ils mettent en place une procédure de rappel à la loi systématique dans les jours qui suivent. Et ils mettent en place toute une procédure en accord avec le monde enseignant local. Sur 3 ans, 80% des jeunes qui sont passés devant eux ne repassent plus devant eux. Ils ont effondré de 80% la récidive d'incivilité dans leur collège. Ça fait pas la une du 20h, alors que la solution à l'incivilité, c'est le major Boucherie. Je veux dire, mais pourquoi? Parce que vous avez un type qui est sorti du rang, si j'ose dire, pour un gendarme, mais qui a fait plus. Alors, ce qui est magnifique, c'est que là, il a remporté le grand prix de la prévention de la gendarmerie. Donc, aujourd'hui, même un système vertical comme la gendarmerie travaille au repérage de ces bonnes pratiques, de ces initiatives citoyennes portées par ses membres. Mais la France est un pays absolument en ébullition de créativité.
Mais alors, François Ségel, là, il y a un vrai problème qui est sur l'enjeu du récit. Comment se fait-il que nous, c'est un nous générique s'agissant des médias, nous ne fassions pas le récit de ce qu'est ce pays pour de bon? C'est-à-dire avec ses lieux de créativité, avec ses éléments dynamiques, avec ses... Il fait sa part. Non mais je veux dire, oui, le résultat c'est qu'on est tous en train de se demander ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le récit a manqué.
Je crois que c'est très compliqué de changer de modèle. C'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les hommes politiques. On a appris à fonctionner avec un système, en gros, globalement, celui de la croissance-productivité qui a quand même plutôt pas trop mal fonctionné dans le monde, et avec plein de côtés positifs aussi. Hein. On en voit que les côtés négatifs, les destructions, etc. Il y a évidemment aussi les côtés positifs. Et globalement, bah, on a toujours envie que ce modèle perdure. Et puis, comme l'autre, il est quand même pas d'une clarté absolue à comprendre et à expliquer, bah, on a un peu de mal. Quoi. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a à vendre si c'était de la croissance? Il va pas vous dire, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de croissance, mais globalement on va essayer de reconfigurer les réseaux. C'est pas si simple que ça à opérer. Les journalistes, le Monde, globalement, il faut parler de tout. Il faut parler de foot, il faut parler de je sais pas quoi, de M. Poutine, de M. Erdogan, de M. Trump. Je veux dire, tous ces gens, globalement, qui n'ont peut-être pas envie du monde, je dirais, sur lequel on est en train de réfléchir. Voilà, il y a malheureusement des priorités dans la vie. C'est vrai que nous, on a fait cette revue, j'irais globalement, on a pensé à faire cette revue parce qu'on pensait que le boulot de la presse, c'était de raconter les changements de société et quel est le plus beau changement de société que celui qu'on est en train de vivre en ce moment. Et puis globalement, il est violent, il remet... On dit que c'est un des 3-4 grands mouvements de changement de société comme l'histoire n'en a jamais connu. Hein, c'est ce qu'on dit, quoi. Où on est emporté dans des révolutions, globalement, où les modèles du XXe siècle ne fonctionnent plus, où la révolution digitale est en train de tout emporter sur son passage. Donc globalement, il y a du boulot, il y a de la matière. Ça vient, petit à petit. Mais alors, avant que ça devienne mainstream globalement dans les centres d'intérêt, ben, je dirais c'est pour ça qu'on se bat. Effectivement, il faudrait, et je dirais merci de nous donner la parole aujourd'hui, cher Stéphane, c'est vrai que globalement, ces mouvements citoyens qui sont en train de mettre des solutions, effectivement, globalement dans le pays, ça mérite effectivement globalement un rendez-vous quelque part sur un grand média pour en parler. Bien sûr, il le faut.
Aurore, une réaction ou un commentaire, je sais pas.
Oui, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites depuis le début de l'émission. Il émerge dans les mots, dans ce réseau de mots que vous prononcez au sujet de ce changement de société. Alors, vous parlez de mouvement de changement de société. Vous employez le terme tout à l'heure reprise en main citoyenne. Il y a le verbe faire qui revient quand même plusieurs fois. Il y a aussi le verbe entreprendre. Vous avez parlé du programme à Arras, entreprenez votre vie. Et il y a ces fameux accords opérationnels. Tous ces mots, ils sont ancrés dans le corps. Le mouvement, vous entendez. La reprise en main, il y a de la main. On a la même chose dans entreprendre. Prendre, c'est avec la main. La racine indo-européenne dans opérationnel, hop, elle dit l'activité productive, elle a donné au pouce, au péris, l'œuvre, le travail, le labeur, tout ça est ancré dans le corps et le faire. Faire, facere en latin à l'origine, c'est poser, placer, donc encore la main. À mon sens, le passage justement du diseux au faiseux, elle se joue dans le corps, dans la mise en marche. Et le langage ne trahit pas à ce niveau-là, il est extrêmement clair. Il y a quelque chose qui se passe, il y a du mouvement.
C'est l'incarnation. La politique a besoin aujourd'hui de se réincarner, de revenir dans le réel, au fond.
Ou plutôt d'un acte de confiance dans ceux qui sont incarnés. Parce qu'ils existent. Nos élus locaux existent. Ils nous écoutent, là, en ce moment. Et il faut savoir que 80% des gens qui sont dans les conseils municipaux sont des bénévoles. Donc quand on fait des généralités sur la classe politique, il faut revenir sur Terre et savoir que ceux qui font au niveau communal, ce sont des militants associatifs, dans la réalité. Ils ressemblent énormément. Mais c'est plutôt faire confiance à ceux qui sont déjà très incarnés, à ceux qui sont dont la main agit. Mais ces élites-là, le pays les produit, il les produit à hauteur d'homme. Et c'est alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce grand mouvement historique, il est en train de fabriquer des gens qui sont d'une énergie, d'une vitalité, parce que même lorsqu'ils se coltent avec des problèmes absolument monstrueux, la question de la faim en France, bon, les gens qui ont faim, bon, dans nos Zèbres, on en a un qui a monté le réseau de Landes. Landes, c'est 300 épiceries solidaires. Guillaume Babst a monté ça. Ça nourrit quand même 1,5 million de gens par an, c'est pas rien, c'est un problème terrifiant de quoi on parle là. Lui et toute son équipe sont des gens, mais je connais peu de gens aussi vivants et d'aussi bonne humeur. Parce que ce qui est très extraordinaire, c'est que cette France en mouvement, en marche, qui est réellement déjà en marche, elle est très incarnée, elle est très physique, ce sont des fêtards, ce sont des gens assez joyeux. Et c'est pour ça que moi je suis en train de vivre un moment de ma vie qui est un des plus beaux moments de ma vie. Parce que je suis en contact tous les jours avec... J'étais vendredi à Metz, avec le maire de Metz. Le type m'explique qu'il produit son électricité lui-même à Metz. Et que ça lui laisse... En plus, il fait une bonne affaire pour ses administrés, que ça lui laisse en dividende plus de 12 millions d'euros. Et alors je lui dis, mais ça marche comment? Et il me dit, ben, on a 40 personnes qui vont récupérer du bois qui est tombé dans les forêts autour, et un tiers avec les ordures. Et ça laisse 12 millions dans les caisses de la commune. Le type, il était tout heureux de me raconter ça. Je veux dire, le maire de Metz jubilait, quoi. Donc cette France qui fait, qui est incarnée, psychiquement, elle va bien. Elle va très très bien. Même si elle est consciente, même si elle voit le réel, l'horreur du réel, même si elle voit qu'on a 9 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté, que comme elle agit sur le réel, l'être humain qui fait, il va bien, hein, psychiquement.
On va rester dans le réel, tenez. On va aller dans Périphérie avec Edouard Zambo, parce que là aussi, il y a des gens qui s'accrochent au réel et qui sont souvent des bénévoles et qui font un travail incroyable.
Agora, sur France Inter.
Y compris avec les mots, hein, Edouard.
Mais justement, je ne sais pas si on est dans le faire ou dans le dire aujourd'hui dans Périphérie, parce qu'on est un peu à la frontière des deux. Alors vous avez, hein, évidemment beaucoup parlé de ceux qui font, des initiatives modestes qui n'apparaissent pas souvent sur l'écran radar, vous l'avez regretté, mais qui contribuent à la construction du lien social. Alors ces initiatives, j'essaye malgré tout dans Périphérie, semaine après semaine, de m'arrêter dessus, qu'elles soient dans le domaine du logement, de l'éducation, de l'alimentation ou de la lutte contre la pauvreté. Et c'est l'une d'elles dont je veux vous parler aujourd'hui, une initiative qui vise à partager quelque chose d'indispensable, mais quelque chose de gratuit. La langue, notre langue, le français. Chaque jour, des dizaines d'étudiants se mobilisent à Paris, à bas bruit, pour offrir aux réfugiés des cours de français. Depuis le début de l'année, ces initiatives sont multiples et elles ont vu le jour pour essayer de proposer à ceux qui fuient leur pays en guerre de se familiariser avec notre langue, un outil indispensable pour essayer de se projeter dans l'avenir. Un réseau réunit ces initiatives étudiantes. Il s'est créé, il s'appelle le Résôme et il fédère des étudiants de l'École nationale supérieure, de l'École nationale des arts décoratifs, les universités Paris Diderot, Paris 4, Paris 8, le HESS, AgroParisTech, avec un mot d'ordre, face à la fermeture des frontières, ouvrons nos écoles. Je vous propose donc de découvrir cette semaine les actions de l'association Infléchir de la Sorbonne, qui tous les soirs, pendant 2 heures, accompagne des réfugiés vers la langue d'un pays dans lequel ils aspirent à rester. Arrêtons de penser le contraire. Des étudiants dont la plus grande difficulté a été, je vous le donne en mille, de trouver des salles pour donner les cours.
Périphérie, Édouard Zambon.
Il manque aux habits et Nazmoul, il est absent.
Excusez ?
Oui, il emmène son bébé chez le docteur.
Bah, je pense que vous allez pouvoir monter.
C'était difficile ?
Non, difficile, je pense.
C'était un petit peu difficile quand même, hein ?
Oui.
C'était difficile.
Un peu, c'est difficile.
Ok, c'est pas grave. Alors, Sifatoula, tu as regardé les nombres, tout ça ? 1, 2, 3...
Oui.
Oui ? On peut faire une dictée ?
40.
Jusqu'à 40 ?
Oui, 0 à 40.
De 0 à 40 ? Ok, c'est bien.
Maintenant, on va cours français, après parler français bien, après travail.
Ça fait combien de temps que vous avez commencé les cours de français, vous ?
Un mois.
Vous êtes arrivé quand en France, vous ?
J'ai arrivé en France le 22 mai 2015, oui, désolé. 22 mai 2015.
Vous arrivez d'où ?
À Soudan.
Du Soudan ?
Soudan, oui. Darfour.
Vous venez du Darfour ?
Oui. Darfour, Al-Fashir.
En septembre, en fait, après ce qui s'est passé à Jean Carré, à Austerlitz, etc., dans les divers camps sur Paris, on a compris qu'il fallait donner des cours de français. Et on s'est dit que s'il y avait une chose que pouvaient faire au moins les universités, c'était ça. Donc on a essayé de monter ça à Paris 4, parce que en plus, à l'ENS et dans d'autres universités et d'autres écoles, ça se faisait. André Rebello, je fais partie de l'association Infléchir, et donc du collectif Résôme. Et on donne des cours de français aux réfugiés tous les jours du lundi au jeudi de 17h à 19h, dans le centre universitaire de Paris-Sorbonne à Clignancourt. On a 2 stagiaires, en fait, avec nous, qui sont en master langue française appliquée. Donc ils sont formés en FLE, français langue étrangère, qui ont besoin d'un stage pour valider leur année. Et donc, avec le CIAL, donc le service interuniversitaire d'apprentissage des langues, avec lequel on travaille, donc il y a un service de l'université, on leur a proposé de faire un stage rémunéré avec nous, en donnant des cours aux réfugiés. Ça permet ainsi d'avoir de vrais cours, d'aider des étudiants qui ont besoin de faire un stage, évidemment, pour valider leur année, mais aussi de permettre aux réfugiés d'avoir un vrai cours, avec des vrais profs qui sont formés en FLE quand même.
C'est facile de trouver des locaux dans les universités françaises pour faire des cours aux réfugiés le soir ?
Ça dépend où vous allez. Y a des écoles qui ouvrent leurs portes assez facilement. Il y en a d'autres où il a fallu un peu négocier. C'est toujours... Trouver des locaux, c'est toujours un parcours du combattant, de toute façon, ici à Paris. Ça a été un peu compliqué. Mais bon, on a fini par résoudre ça, et maintenant l'administration est avec nous, que ce soit Paris 4 ou le CIAL. Bon, voilà. Mais ça a été un peu difficile, oui. Je le cache pas.
Vous avez monté un collectif d'étudiants.
Oui. On a publié une tribune dans Libération il n'y a pas si longtemps où justement on disait, puisque les gouvernements ferment leurs frontières, nous on va ouvrir nos écoles. Ce qu'on veut, c'est que les universités prennent leurs responsabilités. S'il y a bien une institution en France qui doit donner des cours de français, c'est les universités. Enfin, je veux dire, c'est un élément central pour l'apprentissage et c'est un élément central pour la réinsertion ensuite, avec des cours de FLE, avec un accès au cursus universitaire, avec... Oui, on demande que les universités prennent leurs responsabilités. On a une liste d'attente sur Résôme qui est énorme, où il y a au moins, je sais pas, 100, 150 noms.
Ce qui veut dire qu'il y a une vraie demande de la part des demandeurs d'asile vers la langue ?
Ouais, il y a une vraie, vraie demande. La plupart cherchent à rester, cherchent à s'insérer, font les démarches de demande d'asile, etc. Et Dieu sait que c'est difficile, hein, voilà. Et la première chose qu'il leur faut pour s'insérer, bah, c'est ça, c'est les cours de langue. Et ils sont demandeurs, ils veulent. Alors, on a des réfugiés qui sont moins assidus que d'autres dans les cours, mais on en a plein qui viennent tout le temps, qui demandent même aux stagiaires si ça peut pas aller plus vite, qu'est-ce qui se passe pendant les vacances, est-ce qu'on est encore là, quand il y a des jours fériés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cours, etc. Ouais, non, il y a une vraie demande, une vraie, vraie demande.
Périphérie sur France Inter.
Ok, Ayoub.
Dont la femme est professeur. Je voudrais l'office.
J'ai pas. Tu pioches.
Aujourd'hui, moi, réfugié. Arrivé ici au. Les 10 mai. 10 mai.
Vous avez commencé le français le 10 mai.
Je ne connais pas la langue française. C'est peut-être très important pour moi, le cours français. Parce que moi, je reste ici en France. Toujours rester en France. Toutes les populations françaises parlent français. Moi, je ne parlais pas français. Je t'aime la langue française, moi.
Vous aimez la langue française?
Oui. Pays de démocratie, France. Pays de liberté. Presque moi, je t'aime la langue française. Je t'aime la langue française, moi.
Normalement, vous savez les mots de la semaine dernière. Donc ça, c'est les mots. Comme ça, vous pouvez chercher à la maison la traduction. D'accord? Français, et là, arabe, pachto, anglais, espagnol.
Vous avez commencé à apprendre le français depuis combien de temps?
Pour 20 jours. Je vous prends bien français pour travailler, pour parler avec les gens, les amis, les voisins, les copines, tout ça. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui parle bien français pour apprendre plus.
Vous venez 4 jours par semaine au cours, vous?
4 jours par semaine. Et après, à la maison, avec Internet, et pour voir les programmes de télévision français. Et je vois aussi la programme TV5 Monde. Je vois les courts-métrages. Des minutes, 15 minutes, seulement pour parler.
C'est quoi votre mot préféré en français?
Cuisiniers.
Cuisiniste?
Oui, cuisinière. Et autre chose, la liberté.
Édouard, tout ça en 20 jours?
Tout ça en 20 jours.
Pas mal, hein?
On peut faire des miracles quand on se donne un peu de mal, finalement.
La beauté de « Je t'aime, langue française », c'est magnifique.
C'est une belle déclaration. Mmh. Alexandre Jardin, vous parliez beaucoup des initiatives associatives. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, ce qui éclairose tout, c'est la logique de l'appel d'offres? C'est-à-dire que on demande à des associations d'innover dans un cadre qui est déjà contraint.
Dans un cadre qui a été pensé de manière verticale, uniforme, qui est un cadre fou. Et à terme, nous, l'idée que l'on se fait d'un nouvel État, on rêve de ministères dont la puissance ne dépend pas du périmètre administratif, mais de la qualité des programmes soutenus. C'est-à-dire, par exemple, Résome est typiquement un programme, si on était dans un État adulte, qui soit véritablement une structure de soutien de ce qui marche. On arrêterait d'inventer des dispositifs entre crânes d'œufs et on partirait du terrain. Par exemple, ce programme-là, il est né du terrain, donc on a affaire, les gens que vous avez interviewés, ce sont des praticiens. Ce sont des gens qui se sont colletés avec la complexité.
Qui ont commencé par faire le tour des camps de réfugiés, donc, des campements de Paris.
Je considère que la nation doit faire confiance à ceux qui font déjà, ceux qui ont commencé. Ces gens que l'on a écoutés, vous voyez, en 20 jours, donc, a priori, ils connaissent un peu mieux le problème qu'un rapport. Ils sont déjà opérationnels. Et je rêve véritablement du moment où notre puissance publique sera essentiellement un appareil de soutien au territoire, de soutien, d'aide. C'est pas mal d'aider. Je veux dire, d'aide aux gens qui font déjà. Et c'est cette révolution civique, citoyenne, qui adviendra forcément. Parce qu'à un moment, l'absurdité ne peut pas durer éternellement. C'est pas possible qu'il y ait un réseau rhizome qui fasse déjà une part du chemin, mais des rhizomes, il y en a dans tous les sujets.
Bien sûr.
Sur tous les sujets. Donc, à un moment donné, je pense que notre peuple n'acceptera plus la verticalité. Nos élus locaux n'accepteront plus cette verticalité. Quand je parle avec les présidents de région aujourd'hui, ils ont en général, ils ont tous une coloration politique. Mais quand on ferme la porte, ils n'y croient plus. Il y a une différence incroyable entre le off et le on.
Mais ça fait 15 ans.
Incroyable.
Ça fait 15 ans, Alexandre Jardin, que vous essayez de fédérer un peu ces initiatives. Vous aviez créé, je m'en souviens, puisqu'on s'était rencontrés à l'époque, l'Agence des bonnes pratiques. Pourquoi est-ce que ces réseaux, ils ont une raison de se retrouver parmi les zèbres?
Parce que il faut qu'il y ait un lieu où ces réseaux où parlent.
Et est-ce que c'est pas finalement aussi recréer une sorte de méta-association qui viendrait vider de sa sève?
On va le faire localement. D'où l'importance des accords régionaux que l'on passe. D'abord pour coopérer. C'est très important. Je vais prendre un exemple tout bête. Les centres de formation d'apprentis, les CFA en France. 80% des jeunes en sortent avec un contrat de travail. Ça marche. C'est un outil anti-chômage pour les jeunes, qui est performant. Mais un tiers des places sont vides aujourd'hui. Bon. Eh bien, on fait coopérer les chambres de métiers qui pilotent les CFA. On les fait coopérer avec l'Agence pour l'éducation par le sport, qui fédère des centaines et des centaines de clubs de sport, qui socialisent, qui prennent en main une partie de notre jeunesse à travers le sport. Bon. Aujourd'hui, on fait des campagnes de recrutement. On a lancé ça à Roubaix. Avec des clubs de Roubaix et de Calais, mais on l'a lancé avec le centre de formation d'apprentis de Tourcoing. Voyez, si vous voulez transformer les clubs de sport en structure d'accès au travail, il faut, vous voyez bien que c'est zébresque. C'est pas dans les clous. Normalement, les clubs de sport et les apprentis, ça coopère pas. Toute la France est organisée en silos.
C'est l'éducation populaire que vous voulez essayer de réinventer?
Non. Faire coopérer l'éducation populaire avec le monde de l'entreprise, avec le monde des élus locaux, avec le monde de l'administration. Il faut qu'il y ait, les ZEB, pour l'instant, c'est une plateforme civique. C'est une plateforme parce qu'il faut qu'il y ait des lieux, Vous le savez comme moi, l'économie sociale et solidaire, par exemple, elle est organisée en France.
C'est 10% des emplois dans le pays.
Oui, mais c'est organisé en silo. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux. Les maires, ils sont dans des assauts de maires. Et à un moment, il va falloir qu'on converge et qu'on arrive... Alors, au sein du mouvement des zèbres, on essaye d'organiser ça. On n'est pas parfait. On est en route. On le fait avec des téléphones portables. Oui, on est déjà en marche.
Mais François Ségel, c'est à l'observateur que je m'adresse, et pas, je ne vous demande pas une hypothèse, mais la co-construction, on a vraiment l'impression aujourd'hui que ça, c'est un fait de société, et qu'on le voit se reproduire dans les différentes strates de la société. Mais le faire ensemble semble être un mode nouveau dans nos comportements.
Culture partagée, savoir partagée, effectivement, mise en réseau, voilà, tout ça c'est indissociable. C'est comme ça que les start-up fonctionnent, c'est comme ça qu'on va partager effectivement un certain nombre, on va être plus fort ensemble, quoi. Ça remet aussi dans l'entreprise les structures totalement pyramidales. Il y a un papier d'ailleurs passionnant de Joël de Ronès sur ce que sera l'entreprise de demain, qui est passé, que j'ai lu quelque part. Ça n'a rien à voir, évidemment, là encore une fois, tiens, voilà un très bon exemple, l'entreprise. Ce que je veux dire, je voudrais revenir sur ce reportage, parce que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que cette émission, elle est vraiment très utile, parce que, en fait, qu'est-ce que fait Alexandre? Quand Alexandre est face à des hommes politiques qui parlent solution, en général, ils savent pas quoi faire, ils savent rien dire. Là, on a une solution. On parle de problèmes. On considère pas les migrants comme une espèce de masse, je dirais, informe. C'est des individus. On a une solution. C'est une solution qui est extrêmement positive. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on va effectivement gagner cette bataille-là.
Merci à vous deux. Merci François Ségel. Je renvoie à la lecture du numéro de juin de Oui Demain. Une revue pour changer d'époque. C'est un très bon sous-titre. Alexandre Jardin, on vous retrouve à partir de 13h20. Avec Frédéric Mettezo et avec notre ami de l'Observateur, Sylvain Courage, pour vos questions d'actualité. Et là, on va faire une petite pause pour le journal de 13h. À tout de suite. un tout petit mot d'Aurore Vincenti en préambule.
Oui, parce qu'on a parlé d'action, d'acte, d'agir, et en fait, l'actualité, c'est ce qui est en acte.
Eh bien, c'est ce que va prendre en compte immédiatement Frédéric Mettezo avec sa première question. C'est à vous, Frédéric.
Précisément, Alexandre Jardin, l'actualité aujourd'hui, c'est le football, ou plutôt ses débordements. L'exécutif a-t-il raison de miser sur ce championnat d'Europe de football pour que la France s'apaise, entre guillemets? Le pari est risqué parce que François Hollande ne sera pas responsable si l'équipe de France gagne. On le devra aux joueurs de l'équipe de France. En revanche, tous les problèmes sécuritaires, on l'a vu hier à Marseille, ça dépend de la police, de la puissance publique. C'est un petit peu risqué, non, que le politique veuille s'emparer du sport comme ceci?
C'est tout ce qui me déprime. C'est-à-dire... Pourquoi? Parce que derrière ce que va faire le politique, très franchement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce que font les clubs des quartiers. C'est-à-dire ce que fait le mouvement sportif implanté dans nos quartiers. Et l'Agence pour l'éducation par le sport, au moment de cette actualité, est en train de faire une révolution dont médiatiquement on ne parle pas suffisamment. Ils sont en train de transformer leur club en structure d'accès au travail. L'Agence pour l'éducation par le sport a modélisé, j'en parlais tout à l'heure, un système pour remplir les centres de formation d'apprentis, en utilisant les coachs sportifs. Mais on a aussi modélisé quelque chose avec le Crédit Lyonnais. LCL aujourd'hui réserve 10% de ses recrutements aux clubs de sport dans les quartiers. Mais on est en train de discuter avec la Fédération française de banque. On est en train de discuter avec de très nombreux secteurs pour réserver des emplois. Donc, cette révolution par les clubs sportifs pour en faire un élément d'espoir pour les quartiers, c'est beaucoup plus important que ce que François Hollande va faire.
Alors, qu'est-ce qui vous déprime, justement? Qu'est-ce qui vous déprime? Vous disiez, ça me déprime.
C'est la pensée magique verticale. C'est-à-dire que, fondamentalement, qu'il essaye de tirer les marrons ou pas, ça va rien changer aux gamins. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui, pour de vrai, nous écoutent. C'est qu'il faut que dans leur quartier, quelque chose bouge. Et donc, toute cette conception de la politique où l'on utilise des symboles, où l'on utilise de l'émotion populaire, mais où en réalité, il n'y a pas de résultat très concret, très tangible au bout, c'est ça qui déprime le pays. C'est ça. Lorsqu'un groupe comme LCL prend une responsabilité de réserver 10% de son recrutement, c'est fondamental, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas par bonté d'âme. Ils le font parce qu'on a commencé par 50 postes. Et puis tout à coup, le DRH s'est rendu compte que ça faisait venir dans son entreprise des gens très différents, infiniment plus motivés, parce que c'était la chance de leur vie. Et tout à coup, ils se sont souvenus que dans leur histoire, dans le secteur bancaire autrefois, c'était un ascenseur social. On démarrait au guichet, puis on montait. Eh bien aujourd'hui, le système bancaire s'est habitué à ne plus recruter que des bacs plus 4, plus 5. Tout à coup, l'ascenseur social s'est pété la gueule. Donc, on est en train de faire bouger, et là, cette révolution sociale, ce combat pour l'emploi qui est mené par les clubs de l'Agence pour l'éducation par le sport, c'est beaucoup plus important.
Ça veut dire, pour préciser votre pensée, poursuivre votre raisonnement, Alexandre Jardin, qu'il vaudrait mieux que les autorités appuient et aident ce type d'initiative, oui, plutôt que courir après les JO de 2024?
Oui. Très franchement, je préférerais que Hollande prenne par la main 20 groupes et les embarque dans des discussions sérieuses avec l'Agence pour l'éducation par le sport. Parce que ça, ce serait concret. Et puis, je suis même persuadé qu'il en tirerait les marrons du feu. C'est-à-dire, à un moment, il faut que l'on habitue aussi notre classe politique à faire des trucs concrets, quoi. Concrets et à collaborer avec ceux qui bougent déjà, ceux qui sont... comme vous le disiez en souriant, qui sont déjà en marche.
Alors, quelque chose de concret, c'est le projet de loi travail, également dit loi El Khomri, Sylvain Courage, dont on va encore parler cette semaine.
Oui, alors quel est votre jugement sur l'ensemble de ce processus? Ça ne correspond pas exactement à ce que vous préconisez comme mode de prise de décision.
Non.
Donc ça, vous le condamnez. Et sur le fond, quelle est votre position vis-à-vis de ce texte? L'inversion des normes, la prise en compte des accords d'entreprise, ça c'est plutôt quelque chose qui doit vous séduire.
Oui. Par tempérament, vous ne serez pas surpris, je suis plutôt par tempérament du côté de gens comme les CFDT. C'est-à-dire de ceux qui acceptent que le monde est en train de bouger et que les centres de gravité vont devoir redescendre. au niveau local, au niveau de l'entreprise. C'est pas un hasard si j'étais au congrès de la CFDT mercredi dernier. Mais là encore, ou on prend le problème par en haut, ou on bosse sérieusement. Et qui bosse sérieusement? Je vais prendre un exemple très simple, les maisons pour l'emploi. Les maisons pour l'emploi, elles sont portées par les territoires. Donc, elles ont des pratiques extraordinairement différentes. Mais parfois, elles s'unissent pour développer des pratiques qui fonctionnent vraiment. Et il y en a une dont je suis fou, ça s'appelle la clause sociale d'insertion et de promotion pour l'emploi. Ça concerne chaque année 39 000 personnes. On utilise un levier très simple, c'est quand il y a un marché public, il y a une obligation pour les entreprises attributaires de prendre des gens qui sont des chômeurs longue durée. Mais pour que ça marche, il faut que dans la maison pour l'emploi, il y ait quelqu'un qui fasse le boulot, l'interface. Aujourd'hui, elles font ce boulot-là. Vous voyez, là, c'est un outil. Mais c'est concret. C'est 39 000 personnes. Donc, je préfère qu'en matière d'emploi, on ait un clavier avec des opérateurs riches, puissants. Dans les maisons pour l'emploi, par exemple, j'ai trouvé des trucs en discutant avec eux à Blois. Bon, à Blois, ils ont des exploitations saisonnières. Mais personne n'a envie de travailler 15 jours ou 3 semaines. Les gens ont un loyer à payer. Donc ça n'avait pas beaucoup d'impact sur le marché de l'emploi local. Les exploitations faisaient venir des travailleurs d'Europe centrale ou ailleurs. Et tout à coup, la maison pour l'emploi a créé ce qu'ils appellent des boucles. C'est-à-dire, ils prennent 20 exploitations avec des récoltes qui sont étagées tout au long de l'année, ce qui permet de signer des contrats de travail de 11 mois. Tout à coup, les gens, les locaux, ça les intéresse. Et les entreprises, ils trouvent leur compte. Mais vous voyez, cette ingénierie-là, c'est beaucoup plus important de la développer.
Mais la réforme par le haut, comme vous dites, elle peut quand même être utile.
Je ne nie pas. Je vous ai répondu. Hein. Je suis plutôt côté CFDT. Mais je reste convaincu qu'un grand gouvernement est un gouvernement qui porte des programmes. Des programmes. C'est-à-dire la créativité à l'intérieur des maisons pour l'emploi est en train de faire émerger d'excellents pilotes, d'excellents praticiens. Mais si on pense toujours verticalité, on va pas y arriver. Parce que le marché pour l'emploi, il n'est pas le même dans une zone où il y a des récoltes saisonnières, dans une zone où vous avez une activité touristique. Donc si on raisonne à chaque fois de manière verticale, à chaque fois, on passera à côté. Quoi.
C'est le péché originel de cette loi El Khomri, Alexandre Jardin, cette verticalité. On se souvient à la mi-février, interview de Myriam El Khomri dans Les Échos, qui explique quelle sera la philosophie de sa loi, et puis qui dit que s'il faudra passer par le 49-3, on passera par le 49-3. C'est le péché originel?
C'est le péché originel de tout notre mode de fonctionnement. Lorsque Hollande a déclaré, c'était l'année dernière, que l'année d'avant, 40% des décrets qui devaient sortir ne sont pas sortis. Le système ne marche pas. Le système ne marche pas. On a tous parlé de la loi Macron. Est-ce que les décrets d'application sont déjà sortis?
Pas tous.
Bon. Donc, le système ne marche pas. Il fonctionne dans un temps qui n'est pas le nôtre. Parce que les gens qui nous écoutent, ils ont besoin de payer leur... Ils ont besoin de cycles courts. Ils ont besoin de réponses dans des délais qui correspondent à la vie, quoi. Et c'est pour ça que je préfère parier sur des programmes très concrets, les faire monter en puissance en coopérant avec les pouvoirs publics locaux, avec les élus locaux. Là, je viens de signer avec PACA. J'espère qu'on signera bientôt quelque chose avec le Nord. Ensuite, on foncera vers des régions de gauche. On a fait exprès d'aller vers des territoires qui votent massivement FN. Hein. C'est pas un hasard. Bon, là où le peuple crie, il faut aller bosser. Bon. Mais il nous faut des opérateurs. Il nous faut reconnaître la Maison pour l'emploi de Strasbourg est pilotée par un type d'exception qui travaille sur les questions transfrontalières, qui utilise le système de formation allemand, qui envoie des profs en français dans les écoles allemandes de l'autre côté. C'est intelligent. Il faut transférer ce qui se fait à Strasbourg dans nos territoires limitrophes. Les praticiens se sont levés en France. Et donc, lorsque vous me dites, est-ce que c'est le péché originel, oui. Le raisonnement par la loi est un péché originel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre vie publique. Et ce qui est terrifiant, c'est que les partis jacobins nous ont habitués à ça. Ils rythment notre vie politique de grandes lois. Mais je vais vous prendre un exemple. qui a vraiment transformé en pratique des choses à l'intérieur des écoles. Ben, c'est le mouvement Lire et Faire Lire, que j'ai cofondé il y a 16 ans. On s'occupe de 650 000 enfants, on a embarqué les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. On a presque 20 000 bénévoles. C'est pas une grande loi, mais simplement, très concrètement, quand un petit, dans un quartier, et on a des zones, je pense à Antony par exemple, dans les Hauts-de-Seine, où on a une commune où 100% des gamins sont suivis par des retraités de la commune. Je pense au département de la Marne, où 40% des écoles ont des retraités en face d'eux. Ça, le citoyen peut faire sa part.
En fait, les profs dans tout ça ? Comment ? Les enseignants, les professeurs, les instituteurs, les trices ?
Ils inventent des programmes. Mais à chaque fois, le système vertical les emmerde. Je vais vous prendre un autre exemple extraordinaire. Je vais retrouver son nom. Une principale d'un lycée pro en Savoie, qui, quand les mômes rentrent dans les lycées pro, ils ont rarement une haute estime d'eux-mêmes, parce que la société leur fait bien sentir. Qu'est-ce qu'elle fait ? En début d'année, elle fait des petits groupes de 5 dans des grandes salles et elle demande à ses élèves d'écrire sur une feuille de papier un projet pour améliorer leur vie ou la vie de la commune ou du pays. Elle les prend au sérieux. Ces jeunes, ça fait des années qu'elle fait ça. Ils ont une très haute estime d'eux-mêmes. Ils ont des CV longs comme le bras. Et sur le marché de l'emploi localement, les entreprises préfèrent les filles et les types qui ont une expérience de la vie. Ça mériterait un programme d'extension. Mais là, vous voyez, on a le pilote avec cette principale de collège. Parce qu'elle délire pas, elle sait comment ça marche. Donc, vous en avez partout. Vous en avez partout. Chez les flics, chez les enseignants, mais nous, on va porter cette renaissance.
Vous critiquez beaucoup la verticalité oui. de notre système politique. Et cependant, vous avez créé une plateforme pour une primaire des Français.
Oui.
Donc vous vous inscrivez finalement dans un système là qui est très vertical de désignation du président de la République. Comment vous conciliez la logique de votre action et cet engagement-là pour une primaire des Français qui vise quand même à s'aligner dans la présidentielle, qui est bien le symbole de la verticalité du système.
Voire la présidentialisation, oui. parce que la primaire donne encore plus de lustre à celui ou celle qui sera désigné.
C'est un vrai problème. Moi, je l'ai fait parce que j'ai participé à ça, parce que dès que des mouvements citoyens font, bougent, deviennent acteurs, je me sens concerné. Et je me dis qu'il faut de toute façon soutenir ça. Maintenant, c'est un vrai problème parce que la vérité, c'est qu'on est parti sur des chapeaux de roue et que pour l'instant, ça plafonne à 72 000 signataires. Probablement parce que c'était pas évident de marier des feuseux et des partis citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont une structure juridique de parti. C'était pas évident, c'est un pari que je pense qu'on devait courir pour des raisons morales, parce que le pays est aux abois, mais il n'est pas évident à tenir. Donc je prendrais probablement une autre initiative. Mais à un moment, on a intérêt à se bouger le cul. C'est-à-dire, le pays est en train de flamber. Et c'est dans un an. Et les partis sont capables de nous envoyer des gens que les Français repousseront.
Mais alors, si les partis n'y arrivent pas, si vos initiatives, comme vous dites, plafonnent, la troisième voie, où est-elle ?
Je prendrai une autre initiative. Mais elle sera forcément à nouveau collective.
Je prendrai au futur ou...
Oui.
Et vous pouvez nous en donner quelques lignes ?
C'est pour dans bientôt. mais c'est forcément du collectif. Ça suffit, j'y vais pas. D'un tel ou un tel. Les gens supportent pas ça. Ça sera du givon. Givon collectif. On. Ça sera pas du... Je veux dire, à un moment donné, on a en France du Nicolas Hulot. On a des tas de gens qui représentent des choses. Mais si ce sont à nouveau des aventures personnelles, jamais ça embarquera une nation. C'est évident. Il faut que ce soit collectif. Donc, tout le monde discute en ce moment. Tout le monde discute. Maintenant, là où vous avez raison, c'est très paradoxal, c'est-à-dire de penser à l'élection présidentielle, alors que le problème est dans la verticalité. Je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose qu'une énorme renaissance par les territoires. Donc si à un moment le pouvoir central est pris par cette vague qui est en train de se constituer...
Ce sera pour décentraliser.
Oui, ce sera pour décentraliser. Ça sera dans un acte de confiance historique pour interrompre 400 ans de verticalité.
À ce sujet, Alexandre Jardin, il y en a qui sont moins joyeux que vous. Oui. Un auditeur d'Agora sur Twitter Minus Politicus, je pense que c'est un pseudonyme, qui nous dit « Le pouvoir local, ça s'appelle le féodalisme, c'est un avant-goût du clientélisme. »
Tous les systèmes ont leurs défauts. Donc c'est vrai que ça existe. Mais simplement, je préfère les défauts du système local aux défauts du système central. Parce que la personne est à portée de baffe. On peut plus facilement la changer et les élites parisiennes les contrôlent moins.
C'est si vrai que ça qu'on peut baffer, comme vous dites, les grands féodaux, j'avais bien compris. On sait aussi que c'est parfois plus difficile pour la presse quotidienne locale et régionale de faire un travail d'investigation sur telle ou telle affaire ou sur tel ou tel dossier de clientélisme. Vous êtes certain que justement, parce qu'on est plus près, on peut plus facilement détecter les problèmes ?
On travaille, je vais insister sur un point extrêmement important, la question du temps. Quand vous faites un deal avec un ministre, s'il vous dit oui, c'est le début des emmerdes. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes parti dans un tunnel de temps qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Le temps est absolument essentiel. Quand vous faites un accord avec une région, vous pouvez démarrer tout de suite. Quand vous topez avec un élu local, pour installer par exemple le programme Solidarité Nouvelle face au chômage, et lire et faire lire dans un conseil citoyen. C'est rendez-vous mardi. Et puis c'est mardi. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans un temps qui correspond à la respiration des gens. Donc je ne vous dis pas que c'est un monde idéal, il n'y aura jamais de monde idéal. Mais on est à nouveau dans un système où la parole est suivie des faits dans un délai à peu près normal. Si Paris ne vous bloque pas.
Mais Paris qui vous bloque, ça peut être un ministre qui, par ailleurs, ou une ministre, est élu local ou a été élu local.
Eh bien, bizarrement, il se transforme. Je vais vous dire à quoi j'ai déjà assisté.
Allez-y.
Je ne vais pas sortir le nom. Mais un ministre, j'étais dans le bureau, il arrive, il faisait société civile. Coup de fil, son directeur de cabinet a été nommé par le directeur de cabinet de Matignon. Coup de fil suivant, les grands corps de l'État lui ont trouvé des gens pour composer son cabinet. Il n'avait plus de bras droit, il n'en a plus de bras gauche. C'est ça qui se passe. Le système s'auto-verrouille. Alors les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément, parce qu'ils n'étaient pas dans le bureau, ils n'ont pas vu ça. Mais ils le sentent bien. Ils le sentent bien que le système s'auto-verrouille. Et qu'il y a un mode de pensée administratif qui est en train de prendre le pouvoir dans toutes les activités humaines. Et c'est une folie. C'est une folie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez discuter avec des bonnets rouges, vous rentrez dans une UFDSEA à Quimper, vous montez au premier étage, il n'y a que des juristes. Vous vous rendez compte, vous êtes au milieu du monde paysan, ils n'ont plus que des juristes. Parce qu'ils se battent dans un univers juridique de dingue, mais de dingue. C'est-à-dire, le système normatif vertical est devenu fou. Il empêche les paysans, il empêche les médecins, il empêche les enseignants. La dernière fois que moi j'ai été intervenir, c'était à côté de Vire, en Normandie, en tant qu'écrivain. L'enseignante qui m'a reçu a dû demander une autorisation à l'inspection d'académie, une autorisation au département. Un truc de fou. On est dans un système de contrôle, alors que cette fille, on aurait dû la féliciter de prendre une initiative.
Et vous dites que c'est fou, mais la norme n'est pas aussi censée être un garde-fou, justement, pour encadrer nos vies, encadrer la société, faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens ?
Je pense que chaque norme est justifiée individuellement, mais que l'addition est devenue folle. Plus le pouvoir politique a été impuissant, plus il s'est reporté sur la norme pour avoir l'air de faire quelque chose. Et que, in fine, ça devient fou. J'ai assisté à la FNSEA, au compte-rendu. J'étais assis dans un coin, au compte-rendu, lorsque leur président a expliqué au patron des FDSEA, des structures locales, sur le compte pénibilité. C'était une histoire de Fernand Reynaud. Pour savoir si le critère de la vibration s'appliquait quand un gars conduisait un tracteur. Le truc est en train de devenir dingue. Je vous jure qu'il est en train de devenir dingue. En ce moment, les boulangers n'ont pas le droit de prendre des apprentis avant 6 heures du matin. Le pain est cuit. Le pain est cuit. à l'intérieur des hôpitaux, ce qui dégringole de Paris est en train de rendre les gens complètement fous. Il y a eu plus de 31% aux dernières élections de la fonction publique hospitalière qui a voté FN. Pourquoi ? Parce que les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Le système vertical, à un moment, il faut qu'on le pète, il faut qu'on ait confiance.
Alors, le système vertical, tenez, allons en haut du système vertical chez le président de la République.
Oui.
Qui vous entend, peut-être qu'il est même en train de vous écouter, qui sait. Et il a envie de vous voir. Sauf que, si j'ai bien compris, c'est lui qui vous impose son mode opératoire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vous qui alliez à l'Élysée alors que vous vous demandez que ça se passe ailleurs.
Je veux que ça parte d'en bas. La participation citoyenne, ça ne peut pas venir d'un chef de l'État. Ça ne peut venir que sincèrement des territoires. Sincèrement des gens. On ne peut pas décréter depuis l'Élysée la participation citoyenne. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Mais bien sûr, mais concrètement, François Hollande vous a demandé, à vous, Alexandre Jardin, de venir à l'Élysée, et vous avez répondu non, moi je veux bien vous voir, mais pas là.
Oui.
Et tout s'est arrêté.
Effectivement, il y a un moment, il voulait qu'on vienne avec les zèbres à déjeuner. C'est pas l'esprit maison. C'est pas l'esprit maison. Parce que les systèmes jacobins ont pour métier de récupérer de temps en temps un petit morceau de société civile, ils les déguisent en ministre, ils vous collent un directeur de cabinet choisi par Matignon, et ça fait des années que ce bordel fonctionne. On sait très très bien comment ça fonctionne. Donc, on ne marchera pas là-dessus, là-dedans. On ne marchera pas. À un moment, quelque chose de joyeux, de réel, quoi, doit avoir lieu. Et les systèmes centraux jacobins ne marcheront pas. Et vous le disiez, on peut être ministre et élu local. Mais bizarrement, ils deviennent bizarres.
Vous fustigez le système, ce système qui est devenu fou, qui empêche les Français d'agir. Qu'est-ce qui vous distingue finalement du Front National qui lui aussi fustige le système? Qu'est-ce que vous, et en même temps, vous prétendez combattre le Front National. Donc comment vous opérez cette transmutation?
L'inclusion de tous. C'est vraiment pas le programme du Front National. Je veux dire, l'inclusion de tous, la bienveillance. Tous les gens qu'on embarque, ce sont des gens bienveillants. Ce sont des gens qui prennent soin des autres. Et puis, pour moi, le Front National, c'est l'inverse de la France. C'est l'inverse de la grandeur de notre pays. C'est une usurpation de notre drapeau. Une usurpation de nos valeurs. De ce qui fait l'universalisme français. La grandeur de notre pays. C'est absolument l'inverse. Donc, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Mais à un moment donné, si on ne reconnaît pas les choses quand elles dysfonctionnent, des gens comme ça passeront. À un moment donné, on a tous eu peur de dénoncer certains dysfonctionnements centraux en se disant « Bordel, est-ce que ça ne va pas faire un peu populiste ?» Et c'est comme ça qu'on a laissé monter des gens qui n'étaient pas bienveillants et des gens qui ne sont pas pour l'inclusion de tous. À un moment, je pense que quand on gagne son crédit moral par de l'action au service des autres, ça donne le droit de parler franc, sans qu'il y ait cette espèce de procès rampant. Non, on peut parfaitement dire les choses, mais très, très, très nettement. Très nettement. Le système français aboutit à 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Plus de 6 millions de chômeurs. On est dans une faillite intégrale, une faillite sociale. Je parle d'une faillite sociale. Lorsque vous allez dans des communes du bassin des Houillères, où vous avez un revenu médian à 6 000 euros par an, mais vous avez honte. Vous avez honte de la République. Donc, à un moment, on va essayer de fédérer. Pour moi, les grands généraux du changement, ce sont les faiseux. C'est-à-dire les gens qui... Les opérateurs, les opérationnels, les gens légitimes, quoi. Des gens capables. Des gens que la rue respecte. Je peux vous sortir mais des dizaines d'exemples.
Alors nous, on aurait, avant d'entendre les questions du public venu ici à Agora, quatre noms à vous soumettre. On a parlé de Marine Le Pen à l'instant.
Mais c'est pas, vous avez compris, c'est pas du tout ma tasse de thé.
J'ai bien compris. Alors, je vous cite quatre noms. François Bayrou qui appelle à une majorité centrale. Nathalie Kosciusko-Morizet qui se dit et de droite et de gauche. Emmanuel Macron, ni de droite ni de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon qui a fait appel la semaine dernière aux Insoumis. Est-ce que vous vous retrouvez dans une de ces démarches? Est-ce que vous pourriez labelliser avec les zèbres la candidature de tel ou tel? Ou est-ce que par définition, parce qu'ils sont dans ce système depuis un certain nombre d'années pour eux, même Macron, est-ce que finalement ils sont déjà hors-jeu, selon vous?
Pas du tout. La question maintenant, c'est est-ce qu'ils veulent qu'on se rallie à eux ou est-ce qu'ils veulent qu'il y ait du « nous » ? C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'ils vont venir aider les gens qui font ? Est-ce qu'ils auront cette modestie-là ? Je dis ça parce que on voit bien que dans un des grands problèmes politiques tient à la place du « moi ». Quand un type ose dire « moi, président 32 fois », on voit bien que le problème est dans le « moi ». Et celui d'avant, c'était pareil. Cette espèce d'hypertrophie du « moi ». Donc, tous les noms que vous avez cités, la question c'est, est-ce que ces gens vont venir aider concrètement ? Il y a pour moi une question qui est très fondamentale. C'est la question qu'on pose jamais dans le débat politique. Qu'as-tu fait ? Faire. Qu'est-ce que t'as fait ? Toi, perso, je parle pas dans tes fonctions. Humainement, toi. Je me souviens d'une conférence de presse comme ça où il y avait un journaliste de radio qui avait demandé à François Hollande s'il ferait comme je ne sais plus quel chef de gouvernement européen qui avait accueilli un migrant dans sa maison de campagne. Et il avait dit le président j'avais honte. C'est pas mesquin de montrer l'exemple. Dans mes feuilles, les gens, pourquoi je les admire ? Je vais vous prendre un exemple. Solidarité nouvelle face au chômage. Bon, c'est un programme d'accompagnement par des binômes de citoyens de chômeurs longue durée. Le président de ce mouvement, il s'appelle Gilles Mérieux de là-bas. Il accompagne lui-même des chômeurs longue durée. J'ai un infini respect pour un homme qui fait ça. C'est-à-dire qu'il vient faire. Donc, on posera tout le temps la question, qu'as-tu fait ? Que veux-tu faire ? Est-ce que tu veux venir avec, par exemple, des clubs d'entreprise qui te font confiance pour renforcer le travail de l'Agence pour l'éducation par le sport ? Je trouve qu'on doit assainir le débat avec ce mot. C'est qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu veux bien faire ? Ou est-ce qu'on reste dans un débat de positionnement politique ? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes gens, les gens qui font. Donc, il n'y aura pas de ralliement. Il y aura du nous. J'ai envie de nous, quoi.
Madame, bienvenue à vous. Merci d'abord d'être venue voir Agora et de prendre la parole maintenant.
Merci. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes une des rares personnes à nous parler de problèmes vraiment concrets, de solutions concrètes. Et comment expliquez-vous que toutes ces solutions qui sont apportées dans différentes associations soient tellement secrètes ? On en entend très rarement parler, et d'où vient votre dynamisme, et comment aider les personnes bénévoles qui ont plein d'idées, on en connaît beaucoup, qui se découragent face à, aux montagnes, justement, de la fameuse verticalité dont vous nous parlez. Comment les aider à agir ?
En essayant d'aider les différents mouvements à coopérer. Et ensuite, on va essayer de les inclure dans nos négociations, soit avec les régions, soit avec les communes. Je vous dis pas que je vais tout faire bien. Accessoirement, je lève pas l'impôt. Donc on fait ça, on est tous bénévoles. Et on le fait par civisme. Et on le fait parce que on voit bien que le pays, c'est pas qu'il va aller dans le mur, c'est qu'il a franchi le mur depuis longtemps. Donc, comment aider ces gens ? Nous, on a fait la plateforme des zèbres. Si vous allez sur le site, vous verrez que les différents programmes proposent aux internautes de faire avec eux une minute, une heure ou un jour, parce que tout le monde n'a pas le même temps disponible. Et je pense qu'on peut quand même faire une minute. Je pense qu'on doit revenir à un principe très très simple. Chacun fait sa part. Je parlais de solidarité nouvelle face au chômage. Vous voulez les aider, vous allez tout de suite, vous tapez sur Google, vous allez sur leur site, vous copiez l'URL et vous allez en parler. Vous faites leur promo sur des sites. Le site de votre journal, les sites fréquentés, vous allez en parler. C'est ça, faire sa part, vous voyez, pour une minute, pour copier un URL et expliquer ce qu'ils font, pourquoi ce serait bien de faire sa part. J'adore cette expression, elle vient du monde écolo. J'adore les gens qui font leur part. Maintenant, je ne suis pas magique. Hein. Je fais ma part. Et pour l'instant, je fais ma part avec mon téléphone. C'est pour ça que je l'agite. Ça m'occupe beaucoup.
Madame, je vous en prie.
Bonjour Monsieur Jardin, j'aurais voulu connaître votre opinion sur le revenu minimum universel dont il a été beaucoup question ici même dans cette émission, une précédente émission d'Agora. J'aurais aimé avoir votre point de vue. Merci.
Alors, je vais vous répondre, mais je suis toujours mal à l'aise parce que ça ne marche pas déjà en France. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est déjà expérimenté à l'étranger, donc on voit comment les gens se comportent. Moi, à titre personnel, je suis très favorable. Parce que les feuseux à l'étranger qui l'ont fait, les pays qui l'ont fait, on a déjà des laboratoires. Donc on voit bien qu'en fait, le comportement de l'être humain, quand on lui fait confiance, en fait, bah, il se conduit en adulte. Donc on a des tas de pays. Bon. Mais ce qui m'embête toujours quand on m'embarque vers des domaines macro, c'est que c'est un point de vue, mais ça ne va rien faire lundi. Et je me demande toujours, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire lundi? Les militants associatifs dont vous parliez, ils font lundi, quoi. Quand je dis vous allez sur bleublanzeb.fr, vous regardez le programme qui vous plaît, vous faites tout de suite avec un tel ou un tel. Tout à l'heure, on parlait du mouvement étudiant, du réseau étudiant Rhizome, qui fait sa part pour enseigner le français.
C'était le thème de périphérie,
ouais, aux migrants. Vous tapez Google, sur Google, vous allez voir Rhizome et puis vous faites votre part.
Alexandre Jardin, depuis le début de cette émission, à midi, vous avez employé plusieurs mots qui sont revenus. Citoyen, candidat citoyen, collectif. Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là une petite forme, on va dire, de facilité, voire de démagogie à dire qu'on peut être tous politiques, alors dans ce cas-là, tous journalistes, tous chirurgiens, tous avocats, tous professeurs, et pour le coup, là, une hyper-horizontalité qui mettrait fin à la spécificité de ce que peut être une fonction ou un métier avec ses études, son apprentissage et son savoir-faire. Tous boulangers, tous menuisiers.
J'ai beaucoup de respect pour les élus locaux.
Vous l'avez dit.
Parce que il faut que ça roule. Donc il faut des responsables. Donc c'est pas tous boulangers, tous... Mais en revanche, ça ne peut pas fonctionner si tout le monde ne fait pas sa part. Donc, mais ça part. Ça peut pas être dans la confusion. Donc pas tous boulangers. mais tous citoyens, oui. Pour moi, la citoyenneté, c'est pas voter. La citoyenneté, c'est cesser d'être seul. C'est arrêter d'être seul. Et faire avec. J'étais à vendredi à Metz, parce qu'il y avait 40 villes du Grand Est qui s'étaient réunies à Metz pour confronter, pour comparer leurs pratiques de participation citoyenne. Ça m'intéressait beaucoup. De voir qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi. Techniquement, parce que c'est la génération d'élus locaux qui invente ça. Et en fait, ils savent pas, ils essayent, quoi. Et tout le monde tâtonne. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils sont en train de faire naître un monde. Pas l'hyper-horizontalité, non. Non, bien sûr qu'il faut une constitution, il faut un parlement, il faut. Mais en revanche, la grande révolution que, de toute façon, on mènera, parce que c'est le sens de l'histoire. Ça sera l'acte de confiance dans nos territoires.
Je reprends la formule parce qu'elle est belle, hein, faire sa part.
Oui.
Et une fois qu'on l'a faite, savoir s'en aller, mais Cincinnati, il y en a pas, ils sont pas très nombreux ceux qui retournent à la charrue après avoir exercé le pouvoir. J'ai lu quelque part que vous aviez envie, vous, si ça démarrait ensuite, de tout lâcher pour retourner à l'écriture.
C'est évident que je reste foncièrement écrivain. Mais simplement... On n'est pas en train de discuter dans un salon au milieu d'un pays où tout va bien. Dans un an, on peut se retrouver vraiment avec un pays absolument ingouvernable. Je veux dire, en ce moment, vous avez bien vu ce qui s'est passé à Marseille, vous avez bien vu, et toutes les soirées de l'Euro, elles vont pas très bien se passer. Bon.
Vous craignez que cet Euro de football soit une forme d'aspirateur à violence et à frustration, pas celle des hooligans, hein, on sait qu'ils viennent pour boire et casser, mais de tous les autres qui attendent et qui bouent.
Le pays est un volcan. Le pays est vraiment un volcan. Je me suis vraiment baladé comme un dingue pendant 3 ans. Le roman que je suis en train de finir, je l'ai écrit dans le train. Je vous jure que le pays est un volcan. Et lorsque le président des maires ruraux me dit que la croissance, elle se fait un point toujours de plus en Île-de-France, que donc il me dit, nous, on est en récession depuis très longtemps. Alors qu'on est en augmentation en croissance démographique. Donc croissance démographique plus décroissance sur... Eh oui, le ciseau n'est pas bon. Hein. Donc évidemment que le pays est un volcan. Allez vous balader dans les réunions des éleveurs de l'Ouest.
Producteurs de lait.
Oui, évidemment que le pays est un volcan. Mais écoutez le monde enseignant. Je veux dire, écoutez profession par profession. Écoutez les médecins. Écoutez donc évidemment qu'on est sur un volcan. Donc ce qu'on va tenter, c'est une révolution positive, civique, bienveillante, quoi, profondément républicaine, avant qu'il y en ait une moche.
Merci Alexandre Jardin d'avoir répondu aujourd'hui à l'invitation d'Agora. Et on va regarder un petit peu comment ce pays va savoir s'organiser ou pas. Mais on comprend à vous écouter que finalement vous jubilez quand même aussi, même si le pays est un volcan.
C'est les deux.
C'est les deux. On va voir, on va essayer de bien faire, et de faire en tout cas.